Bien, c'est vous voyez donc il y a là un tout autre sémantisme, si vous voulez, mais il n'en reste pas moins que Shamaïm est un duel. Et c'est le duel de quoi? Eh bien, c'est le duel de Shem. Shem. Shem que l'on traduit par le nom. Et vous avez d'ailleurs un terme qui va vous renvoyer à cette notion en hébreu pour dire l'endroit, là-bas, on dit Sham. Là-bas, là-bas où il y a quelque chose, c'est Sham. Donc, Shamaïm, c'est si vous voulez le duel de Sham. Chaque point de l'espace a toujours, dans toutes les directions, deux dimensions opposées. Donc, Shamaïm ne pouvait être dit qu'au duel. Chaque Sham, si vous voulez, a tout un ensemble de coordonnées. Si je prends chaque Sham comme point central, il y a toujours un côté et l'autre. Donc, le ciel, c'est Shamaïm. Et c'est dans le ciel que se fait la révélation de la révélation d'en haut. Du Shem. Les Shem Shamaïm, ça veut dire au nom du Shem unique qu'il y a dans Shamaïm au duel. Je répète. Voilà. Les Shem Shamaïm, c'est Pshat. Oui. C'est-à-dire Shamaïm est au duel, il y a deux opinions. Mais la marloket était les Shem Shamaïm pour la sagesse unique qu'il y a dans ces deux opinions, qui va chacune d'un côté divergent de l'autre. Est-ce que vous entendez mieux ça en hébreu? En fait, l'hébreu facile quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même une unité de sagesse qui, se déployant, donne deux directions d'opinion opposées, comme dans le ciel. Alors c'est pourquoi on emploie cette expression « Lechem Shamaïm ». Ça veut dire pour vraiment viser et atteindre le but unique de ce qui est dit dans deux dimensions. Bon, je vous citerai pour aller vous-même, tout ça, non pas à la lettre, mais enfin c'est l'esprit de l'enseignement du Maharal ici directement. C'est-à-dire en quoi, bien que la marloquette, c'est-à-dire l'opposition, la controverse, étant donné qu'elle est une division, la marloquette n'est pas aimée. La marloquette, c'est la racine du mal, toujours. Mais pourquoi la marloquette, qui est l'Eshem Shamaïm, va être honorée, alors que d'une façon générale, on apprend que Snoua marloquette, la marloquette est rejetée, elle est haïe, parce qu'elle est la cause du mal, malgré tout, il y a ce cas de la marloquette, l'Eshem Shamaïm. Et c'est là que ça nous fera comprendre la différence qu'il y avait entre la position de Hillel et Shammai d'un côté et la position de Korach et Hagatour de l'autre. Alors le Maharal explique que nous avons un Midrash qui est cité par Rashi et qui veut nous faire comprendre cette dialectique du duel dont je viens de vous parler de façon un peu trop simple, veut nous faire comprendre cette dialectique en nous disant que Shamaïm, c'est un mot qui, dans la lecture midrashique du terme, résulte de la synthèse entre Esh et Maïm, le feu et l'eau. Esh, c'est le feu, Maïm, c'est l'eau. Et Rashi nous dit en citant le Midrash que Shamaïm, c'est l'endroit où le feu et l'eau, c'est la même chose. Shamaïm, c'est Esh Maïm. Effectivement, d'ailleurs, physiquement, c'est un peu comme ça. Et alors, ça nous renvoie à un thème très important qui est le problème de Shalom, le problème de la paix. Le terme de la paix, c'est apparemment le contraire de Mahloket. Mais une Mahloket qui est l'Eshem Shamaïm, elle est en plein dans Shalom. C'est l'autre qui est la guerre. Shalom, c'est la paix. C'est ce fameux verset, Ose Shalom Limbroma, Rui Ase Shalom Alelu. Que celui qui fait la paix, qui fait, fabrique la paix dans les hauteurs, dans le ciel, que lui aussi fasse la paix chez nous. C'est-à-dire, dans le ciel, dans Shamaïm, il y a la paix des contraires. Le ciel, c'est le feu et c'est l'eau. Et ça existe. Vous comprenez? Il y a une image dans le Midrash qui est très importante et qui est que chaque fois que l'on rêve de la solution d'une controverse, on rêve d'une marmite. Je vous ai jamais parlé de ça?
Oui.
Si, si. Voilà, je vous le rappelle. Ce qu'on appelle Maase Kedera. Parce que précisément, la marmite, c'est ce qui fait la paix entre le feu et l'eau. Imaginez l'image, vous avez le feu en dessous, ensuite la marmite et l'eau dedans. Si on met en contact l'eau et le feu, il y a une catastrophe d'un côté ou de l'autre, mais la marmite arrive à faire la paix entre l'eau et le feu, et plus que ça, ça va très loin, on se sert du feu pour que l'eau puisse devenir de la nourriture, de la soupe. Ouais. Donc le ciel, c'est Kedera. Le ciel, c'est une marmite, et, dans la même logique que cette image, c'est le Rakia, hein, qui fait la paix entre l'eau et le feu. Bien, alors de la même manière, au niveau des valeurs spirituelles, Esh ou Maïm, c'est Chesed et Din. Esh, la Torah est appelée Maïm, et la Torah est appelée Esh aussi. C'est-à-dire qu'il y a, dans la sagesse de la Torah, deux dimensions. La dimension de miséricorde et la dimension de rigueur. Donc il est inévitable, je vais nous faire comprendre le Maharal, il est inévitable que, si Israël possède vraiment la Torah, il est inévitable qu'apparaissent deux écoles, et qu'ils soient en marloquet, mais c'est la marloquet de l'Eshem Shemaïm, l'école qui est chargée, et qui se charge, enfin finalement par tempérament, de formuler la Torah dans le sens de la rigueur, et l'école qui est chargée de formuler la Torah dans le sens de la miséricorde. Mais vous retenez ce qu'il y a derrière ces termes. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, si vraiment Israël a la Torah, alors il faut qu'il y ait Bet-Hillel et Bet-Shammai. Sinon, c'est que c'est ni Israël ni la Torah. Parce que la Torah est Esh, et la Torah est aussi Maïm. Étant donné que le problème qu'il y a à résoudre dans la vie humaine, c'est le problème de la relation des personnes, et qu'il y a deux critères à la relation des personnes, la relation de Chesed et la relation de Din, la relation de rigueur et la relation de miséricorde, par conséquent, il faut que la Torah soit formulée pour l'une et l'autre des deux relations. Je veux dire qu'il est inévitable qu'immédiatement éclate cette double coordonnée, celle de Bet Hillel et celle de Bet Shammai. C'est ça, les Shem Shammai. De la même manière qu'il y a. Alors, c'est ensemble Bet Hillel et Bet Shammai qui sont Shammai, Torah Minyan Shammai. Bien, est-ce que vous avez compris donc l'explication que donne si la marloquette est de cette sorte, qu'effectivement l'un, de façon catégorique, va formuler la Torah pour la personne humaine du côté de la rigueur, ça c'est Bet Shammai, et l'autre va formuler la Torah pour la personne humaine du côté de la miséricorde, ça c'est Bet Hillel, les deux, c'est parole du Dieu vivant, comme dit le texte. Les deux, c'est vérité absolue. Et les deux sont en controverse. Le problème, c'est de faire la paix entre les deux, comme le ciel fait la paix entre le feu et le feu. Voilà. Est-ce que c'est bien clair? Alors, lorsqu'on a une controverse de cet ordre, c'est une controverse cachère. Et cette controverse-là, elle est sofal et itkayem. En fin de compte, ce sont les responsables, j'allais dire politiques, de la communauté qui ont à décider comme qui on fait maintenant, et aujourd'hui comme qui, demain comme qui, suivant la problématique des problèmes qui sont posés. Mais dans les deux cas, bien que formellement la décision est absolument contradictoire, l'un interdit, l'autre permet, chaque fois. Quand la rigueur permet, la miséricorde interdit. Et quand la miséricorde permet, la rigueur interdit. C'est cohérent. Bien que ce soit contradictoire dans les décisions, l'un et l'autre, c'est absolument la vérité. Mais il faut savoir comme qui il faut faire, d'après la manière dont les questions sont posées. Est-ce que c'est bien clair? Et alors, la caractéristique de ce genre de marloquet, c'est que, vraiment, chacun est dans un camp différent. L'un est le camp de Chesed, et l'autre est le camp de Dine. Mais si, à l'intérieur d'un des deux camps, apparaît Marloquet, alors ça c'est Marloquet qui n'est pas la Shem Shammai. Et ça c'est la Marloquet de Korach et d'Aradat. Vous comprenez pourquoi? Parce que Korach et son assemblée étaient du côté de Moïse, dans le camp de Moïse. Dans le camp, je veux dire, dans le sens de la position, oui, de Moïse. Et c'était donc une querelle intérieure à une tendance. Alors elle est sûrement pas cachée. Alors c'est sûrement une question de personne. Ce qui, effectivement, les textes arrivent à expliciter de façon très claire. Effectivement, c'était une rivalité personnelle qui portait Korach à s'opposer à Moshe. Et rivalité suspecte, puisqu'effectivement, le seul qui aurait pu remplacer Moshe, c'était Korach. Donc c'était Dafka, pas lui, à tomber dans le piège de la marloquette de personne à personne. Vous comprenez en quoi c'est suspect. Et c'est là que nous trouvons la méthode de cette marloquet qui n'est pas l'Eshem Shammaim, chaque fois que l'on décèle la surenchère de la démagogie. Que ce soit dans le camp de Hillel ou dans le camp de Shammai, il peut y avoir un Korach. Si c'est Shammai et Hillel entre eux, c'est une marloquet cachère, parce que c'est le feu et l'eau. Mais si c'est chez les gens du feu, chez les gens de l'eau, qu'il y a marloquet, alors c'est sûrement pas cachère. Voilà ce que la Mishnah veut nous faire comprendre. Est-ce que c'est bien clair? Alors je reviens d'abord, de façon à l'origine de la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Et cette origine, la Torah nous la raconte dans l'épisode où, à un certain moment, il est nécessaire de susciter ce qu'on appelle le Sanhedrin. C'est-à-dire que, juste après l'épisode de Caï, c'est-à-dire lorsque le peuple a demandé de la viande, pour rappeler, on a parlé de ça hier matin, et que Moïse a dit à Dieu, je ne peux plus diriger ce peuple, Alors Dieu lui a dit, c'est exact, il faudra qu'il soit dirigé par une assemblée. Vous vous rappelez de tout cela? Alors voilà, très brièvement, comment cette assemblée a été constituée. Il y avait 12 tribus, et il fallait donc qu'il y ait des délégués de chaque tribu pour former la Sanhédrin. Et comme vous le savez, la Sanhédrin était une instance de juge, de tribunal suprême, formée de 70 membres. Et on a donc demandé 6 délégués par tribu, mais ça faisait 72. Donc inévitablement, il en avait 2 de trop. Ouais, c'est aussi un saut de la Chochma. Lorsqu'il faut, à partir de l'unité qui devient les 12 tribus, lorsqu'il faut regrouper une assemblée récapitulative de la communauté, alors apparaît ce fait que 2 sont en dehors. Parce qu'inévitablement, les 12 tribus devraient donner 72 délégués, mais il n'en faut que 70. Pour d'autres raisons. Enfin, puisque la multiplicité, Stam, Pachut, 70. Aïe. Et voilà comment on s'y est pris. On a mis dans une urne les 72 noms, et on a tiré au sort 70 noms. Et un peu plus complexe que cela, mon cher Rabbeinu a écrit sur 70 papiers Zaken, ça veut dire tu feras partie du Sanhedrin, et 2 papiers les a laissés blancs. Alors ceux qui ont tiré les 2 papiers blancs étaient en dehors des 70. Et la Torah nous dit que ceux qui ont tiré les 2 papiers blancs s'appelaient Eldad et Medad. Et que Eldad et Medad se sont mis à prophétiser dans le camp, et je vous dirai qu'est-ce qu'ils ont prophétisé. Pendant que le Sanhédrin a été convoqué par Moïse, ils étaient donc 70 destinés à recevoir la révélation, l'inspiration. Vous voyez ce passage de Moïse comme médiateur unique à l'assemblée des 70, qui sera déjà préfiguration de la Knesset HaGedola, c'est-à-dire du collège qui doit relier la Torah à la collectivité comme unanimité anonyme. Vous voyez où nous sommes. Alors, pendant que les 70 reçoivent l'inspiration de l'Esprit-Saint, pendant ce temps, Eldad et Medad étaient dans le camp et commençaient à prophétiser. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Dit le Midrash. Ils ont prophétisé, Moïse va mourir et c'est Josué qui va faire entrer Israël, le peuple d'Israël en Israël. Alors c'est là que Josué a dit à Moïse, détruis-les. Et que Moïse a répondu, pourquoi tu veux les détruire? Qui fera que tout le peuple soit prophète? Donc, dans le contenu de cette prophétie, il y a allusion au conflit des générations. Effectivement, Moïse, qui est le chef de la génération précédente, doit disparaître, disent Eldad et Medad, et c'est Josué qui doit faire entrer. Mais revenons au problème. Voici comment la Kabbalah explique ce problème. C'est que la sagesse est appelée Bina. Et au niveau de Bina, la sagesse est représentée comme étant la mère et Mavani, comme étant la mère qui allait les enfants. Et il y a 2 seins de l'allaitement, et en hébreu, le sein se dit Dad. Il y a donc Eldad et Medad, avec les noms se ressemblent. Celui du côté de droite et celui du côté de gauche. Nous savons par tradition que la Torah désigne toujours la miséricorde à droite et la rigueur à gauche. Et le nom d'ailleurs, le nom de Dieu de la Midah de Chesed, c'est El, et de la Midah de Bina, de la Midah de Gevura, c'est Mi. El et Mi. Alors El donne Eldad, et Mi donne Medad. Ensemble, ça fait Elohim, Elohim. Il y a donc une limite à droite et une limite à gauche qui sont à l'extérieur des 70. Et cette limite à droite et cette limite à gauche, c'est la formulation de la prophétie extérieure à l'unité de la halakha, du point de vue de la kula, c'est-à-dire du point de vue de l'allègement de la loi, ou l'enseignement du point de vue de l'aggravation de la loi, du point de vue de la chumra. C'est-à-dire pendant que le Sanhedrin se réunit pour élaborer la halakha, alors il y a toujours 2 limites extérieures, celle de la Kula et celle de la Chumra, celle de Hesh et celle de Maïm, celle de l'allègement de la loi et celle de l'aggravation de la loi. Tout l'objet de la controverse entre Beit Hillel et Beit Shammai, c'est de réintégrer dans l'unité des valeurs ces 2 limites extérieures de Eldad et de Medad. C'est-à-dire la réincarnation de Eldad et Medad, c'est Hillel et Shammai. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire finalement, c'est bien les Shem Shammai, c'est-à-dire pour retrouver l'unité des valeurs. Et c'est pourquoi nous voyons que la halakha comme Beit Hillel est dans le sens de l'allègement, la halakha comme Beit Shammai est dans le sens de l'aggravation. Mais s'il n'y a pas réintégration de l'unité de cette valeur dans la dialectique, ça reste en dehors des limites, et cela devient marloquette chez le c'est-à-dire, ce n'est pas une marloquette des personnes, c'est une marloquette des opinions, il faut qu'elles soient mises en évidence, du point de vue de la limite extérieure qu'elles représentent, en vue d'une réintégration du point de vue de l'unité. On pourrait d'ailleurs résumer tout cela de cette manière maintenant. Il y a ce fait, au fond, très simple, d'un piège psychologique dans lequel peuvent tomber les plus grands sages, parfois, et qui est de profiter que l'état du monde, depuis la création, est tel que toute valeur a de côté, de profiter de ça, c'est-à-dire de profiter de la marloquette qui elle, est l'échec chamaïque, pour réaliser des ambitions personnelles. En fin de compte, et on voit que Moïse est impuissant devant la marloquette de Korah. Chaque fois que le peuple s'est révolté, et jusque y compris la révolte des explorateurs, Moïse a pu prier et obtenir l'expiation de la faute. Mais au moment de la marloquette de Korah, on voit que Moïse devient impuissant. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même Nogéa Badabar. Vous comprenez? Il est lui-même Nogéa Badabar, ça veut dire il serait lui-même juge et parti. Et c'est la raison pour laquelle c'est la chose la plus grave. Et là, la Torah nous raconte une histoire fantastique qu'effectivement, la terre s'ouvre et engloutit Korah vivant. Et il y a une tradition talmudique qui dit que, sauf le Shabbat, parce que Moshe a pris que le Shabbat puisse se reposer, depuis ce temps-là, le chemin de Korah est dans l'enfer, parce qu'il est vivant encore, et sa punition, ça consiste à dire, sans arrêt, Moshe Emet ve Torato Emet. Je vous ai expliqué ce mot. Ça consiste à dire, Moïse est vrai et sa Torah est vraie. Ça veut dire qu'au fond, c'est le tourment, c'est le Gehinam des Baal et Mahloket. Ça veut dire que cette Neshama de Korah, elle est vivante dans toutes les Mahloket, mais c'est Gehinam. Parce que celui qui est en Mahloket, le Leshem Shamaim, le sait. Alors il est vraiment dans l'enfer. Parce qu'il est obligé de reconnaître dans son fort intérieur que c'est l'autre qui a raison, et pourtant s'en tenir dans sa Mahloket. Dans tous les cas, il est perdant. Parce que s'il redevient sadique, c'est lui-même qui se punit, puisqu'il est obligé de reconnaître que c'est l'autre qui avait raison, et s'il est rachat, de toute façon, il sera puni. Enfin, dans tous les cas, cette position qui consiste à être en marloquet contre celui dont on sait qu'il dit la vérité, qu'il possède la vérité, est une position infernale. Enfin, donc, ce que la Bible décrit, si nous voulons le comprendre d'un point de vue intériorisé. Je terminerai par deux citations. La première, c'est qu'effectivement, le Midrash a voulu nous montrer que la position de Korah était ce que je vous appelais cette surenchère de la démagogie. C'est immédiatement après l'enseignement des Tzitzit que Korah commence à marloquer. Moshe vient dire, voilà, quelle est la Midrash que je viens de recevoir. Dans le Talet, il faut mettre un fil bleu dans les Tzitzit. Korah dit, tu n'as peut-être pas bien entendu. Moi, j'aurais entendu que le Talet tout entier doit être bleu. Il y a d'autres exemples, mais vous voyez bien qu'il s'agit de la démagogie. On est du même côté que Moïse. Il faut qu'il y ait quelque chose de bleu dans le Talet. Mais on ne dit pas comme lui. Moïse a dit c'est un fil dans le Tzitzit. Bon, alors c'est vraiment ça de quoi il faut parler, qu'il y a du bleu dans le Talet. Bon, mais on va dire qu'il faut que tout le Talet soit bleu. Oui, ça c'est la marloquette de Korah. Oui, en quoi c'est la surenchère, pas? Parce que vis-à-vis du peuple, Korah apparaît comme plus pieux que Moïse. Il est tout bleu. En fait, le Maharal a donné dans le Be'er HaGola, a donné une indication très importante. Il y a toute une thèse dans cette marloquette. Le Talet, c'est l'ensemble de la Torah, et corollairement, c'est l'ensemble du peuple d'Israël. Mais pour que le Talet soit caché, il faut qu'il y ait un qui soit différent des autres. Un qui soit très bon. C'est Moïse par rapport au peuple. Et Korah répond non. Tout le Talet doit être bleu. Vous voyez, derrière cette marque. En fait, très brièvement, à propos de ce problème, l'argumentation de Korah est vraie, elle est authentique. Mais son intention était inauthentique. Comment? Eh bien, Moïse vient délivrer un peuple de l'Égypte en disant, vous allez recevoir, vous, en tant que peuple, la révélation du Créateur pour devenir Mamlechet Kohanim de votre peuple, pour devenir les guides des autres nations qui n'ont pas vécu et compris l'expérience du passage. Vous qui avez fait le passage d'un monde à l'autre, vous pourrez, lorsqu'il y aura à faire le passage d'un monde à l'autre, diriger les autres peuples. Par conséquent, dans le principe, tout Israël est kadosh. Comme du Korah. Tout Israël est kadosh, tout Israël est destiné à devenir Mamlechet Kohanim, dans le principe. C'est-à-dire, tout Israël est destiné à être comme Moïse. Donc, dans le principe, il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Et voilà que ce même Moïse qui révèle à Israël qu'il n'y a pas d'hiérarchie installe une hiérarchie. Alors Korach s'installe dans ce problème et met Moïse dans une impasse. Puisque son argumentation consiste à dire qui Korach est là, Kula Kadoshim, ou Tocham Hashem, ce que Moïse lui-même enseigne, que tout Israël est Am Kadosh. Vous comprenez bien cela. Vous voyez la malignité de Korach. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est en quoi il était devenu nécessaire qu'une hiérarchie s'installe. Et justement, lorsque Moïse installe cette hiérarchie devenue nécessaire, parce qu'effectivement Israël n'était pas encore au stade de pouvoir être tous sans hiérarchie, Mamlechet Kohanim, par rapport aux autres peuples, et parce qu'apparaît depuis la faute du veau d'or, comme vous le savez, un temps qui commence au temps de la génération du désert, jusqu'au temps messianique, où il faudra que ce peuple de prêtres ait lui-même des prêtres, que ce peuple de juges ait lui-même des juges. Donc une hiérarchie, alors que Moïse installe la perche de récupération d'Israël ayant tombé du niveau où il devait être, vous comprenez tout cela? Alors Korach arrive avec sa démagogie, et au nom d'un Israël théorique, contredit Moïse. Dans ce qu'il dit, c'est la Torah qui parle. C'est vrai que Kol Ha'eda Kol HaKedoshi. C'est vrai que Uptor HaMashem. Mais Moïse a raison d'installer une hiérarchie comme ça. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas encore Israël. Ce n'est pas encore Israël de la fin des temps. Vous voyez qu'il y avait donc le caractère, l'ordre de Shamaïm, de la Mahloké de Kon. La deuxième citation que je voulais rappeler, c'est que nous apprenons après le récit de la création que la Mahloké a été créée le deuxième jour. Et Gehinnom aussi a été créé le deuxième jour, d'après le Midrash. Vous rappelez la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et le Midrash dit, depuis ce temps-là, les eaux d'en bas pleurent, parce qu'ils ne sont pas en haut. Mais quand il pleut, c'est les eaux d'en haut. Et, c'est-à-dire, il est devenu nécessaire pour que le monde existe, tant que ce monde-ci doit exister, il est devenu nécessaire que les choses soient séparées en deux. Et celui qui est le séparé ne peut pas ne pas pleurer. Voilà ce que le Midrash dit. La marloquette, ça fait pleurer. Et il y a un midrash qui dit ce qu'on appelle l'idiot de Mar. L'essentiel de la marloquette, c'est Madouar. Lorsqu'on dit à quelqu'un pourquoi. Et Madouar, c'est les mêmes lettres que Demar. C'est là. Bien, je referme la parenthèse. Et nous avons l'habitude, chaque jour de la semaine, de dire un psaume. Qui se réfère à l'œuvre de chaque jour de la semaine, dans la semaine du commencement. Alors c'est très frappant de voir que le psaume que l'on dit le deuxième jour, c'est un psaume de Bnei Korach. C'est intentionnellement que la tradition a choisi un psaume de Korach pour faire le tikkun de la Mahloket, et c'est pourquoi on lit le psaume de Korach le deuxième jour. Et je dis ça pour la liturgie du matin, quand vous arriverez chaque fois à ce psaume le deuxième jour, rappelez-vous que ce n'est pas par hasard que c'est Shir Mizmor Bnei Korach, parce que c'est le jour de la Mahloket. Donc, alors voilà donc l'essentiel de l'enseignement du Maharal sur ce problème, si vous avez des questions. Ah oui, tout simplement, voilà ce qui s'est passé, c'est que il y a eu deux oppositions au Guillaume, enfin à la conversion, une de la part de rabbin orthodoxe, de Jérusalem, et l'autre de la part d'un député de Ralamazé, c'est-à-dire de l'extrême-gauche. Et la Cour suprême rabbinique à Jérusalem s'est réunie sans la présidence du grand rabbin d'Israël, qui intentionnellement n'est pas allé avec eux, puisque chacun connaît l'opinion l'un de l'autre. Et la Cour suprême a rendu ce discours invalide pour des raisons de forme, pour des raisons purement légales de la loi israélienne, étant donné que c'était un tribunal rabbinique officiel, non pas un tribunal rabbinique privé, qui peut prendre une décision de ce genre. Par conséquent, il fallait que ce soit un tribunal rabbinique officiel qui se constitue. Alors c'est ce qu'a fait le seul juge de la Cour rabbinique suprême de Jérusalem qui n'est pas venu siéger, indépendamment du président qui est le rabbin ici, et le rabbin Ovadia Yosef, qui est le grand rabbin de Tel Aviv. Le rabbin de Tel Aviv a réuni un bet din officiel, et a validé le guillou de Rav Goren. Et on voit, je vous dirais deux choses. Chacune des instances ne pouvait pas prendre une autre décision que ce qu'elle a prise. Puisque formellement, le guillou de Rav Goren n'était pas valide. Puisqu'effectivement, c'était un bedding privé. D'autre part, seul le Rav Goren avait la possibilité de faire ce guillou et de le rendre caché. Par conséquent, la Cour suprême rabbinique devait l'invalider ce que le Rav Goren avait fait. Mais le grand rabbin d'Israël, pour montrer que la décision finale sera de l'habilité, n'est pas allé présider la cour en question. Et il a demandé à l'autre Rav Sfaradi, c'était que deux Rav Sfaradi, donc lui le Rav ici, mais le Rav Ovadia, de ne pas venir non plus, pour qu'il puisse être lui, le Rav Beit Din, qui validerait le livre du Rav. Et étant donné que nous avons depuis le Moyen-Âge, cette différence dans la halakha entre les Sfaradim et les Ashkenazim, que en général les poskim des Sfaradim tranchent comme Beit Hillel et les poskim des Ashkenazim comme Beit Shammai, et que c'est connu en Israël, alors tout s'est arrangé comme ça, que les Sfaradim ont ménagé la possibilité d'habiliter la décision du Rav Goré. Mais la chose extraordinaire qui est arrivée, c'est que le Beit Din du Rav Ovadia Yosef n'est pas du tout caché. Les passants l'ont avancé, mais personne ne s'en est rendu compte. Évidemment, c'est le Rav Ovadia Yosef qui a tout arrangé. Comment il s'y est pris? Il a mis le Rav Goren dans son Beit Din, comme Dayan. Or, on ne peut pas mettre comme Dayan le Baal Din. Alors, c'est passé comme ça. Personne n'a rien compris. Et voilà comment les choses se sont arrangées. Ça veut dire aucun des principes n'a été violé, et on a trouvé quand même une solution. Et la solution qu'il fallait. Ah, ça, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. De toute façon, ils n'ont pas demandé un mariage. Elle a demandé à venir. Donc, de toute façon, les enfants de ce Cohen ne seront plus Cohen, s'il a des enfants avec elle, mais Kiddushin est aussi. Kiddushin, c'est Kiddushin. Seulement, quand ce sont des Kiddushin libéraux, ils ne sont pas reconnus par le Beit Din. Ça sort. Et on a posé l'argumentation la plus grave qui a été posée par les rabbins orthodoxes, c'est de demander qu'elle vit dans un kibbutz revati. Elle ne pourra pas manger cachère, et donc le principe même du guillot est faux, puisque quand on se convertit, on doit s'engager à observer les mitzvot, sinon c'est autre chose qu'une conversion. Et alors il est arrivé une chose miraculeuse, c'est qu'on a découvert qu'elle était végétarienne. Et c'est vrai, dommage. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Écoutez, non, absolument pas. Seulement, je m'aperçois que je me suis mal exprimé tout à l'heure. Cette marloquette continue. Il y a toujours des gens qui sont pour cette opinion. Que la vérité sera comme eux, non. Mais il y a toujours des gens pour cette opinion. Dans ce qu'elle signifie. Vous vous rappelez, je ne sais pas si je vous ai parlé de cela cette année, à ce propos, enfin très très brièvement, dans la Gemara de Brachot, on me pose la question de savoir quel sera le signe du Kriyat Shema du matin. Le Kriyat Shema du soir, du point de vue de l'histoire. Le Kriyat Shema du soir, c'est lorsqu'on entre dans l'exil, lorsqu'on entre dans la nuit. Et on attend le Kriyat Shema du matin. Vous vous rappelez dans la Gada, les élèves d'Arsamim, ils sont venus dire à Bnei Brak, ils sont venus dire à leur maître, Igiyar Zman Kriyat Shema Shetzachrit, c'est-à-dire le Kriyat Shema de la délivrance. Pendant toute la nuit, ils parlaient de la délivrance de la sortie d'Égypte. Et leurs élèves sont venus leur dire, le temps de Kriyat Shema du matin est arrivé. C'est-à-dire symboliquement, ça signifie que c'est le temps de la délivrance. Alors le signe que la Gemara donne à propos de la Mishnah, c'est lorsqu'on pourra distinguer le bleu du blanc. Lorsqu'on pourra distinguer le bleu du blanc. Et la Trélette est là-bas. Et la Gemara demande, quoi le bleu du blanc? Entre un bleu et un blanc? Et non. Le bleu qu'il y a dans le blanc. C'est-à-dire, si on arrive à distinguer dans une étoffe teinte en bleu, des parcelles de l'étoffe qui sont restées blanches, alors on peut dire qu'il fait suffisamment jour. On distingue suffisamment pour dire c'est jour. Alors ça, c'est le digne de la halakha. Vous interprétez ça du point de vue de notre problème. On apprend que Yaakov Avinu est appelé Tachlito Shel Olam. Il est appelé le but, l'objectif de la création du monde, c'était Jacob qui devient Israël. Vous comprenez cette idée, Tachlit. Or, en hébreu, Techelet, c'est la couleur du Tachlit. Techelet, cette couleur bleue, c'est la couleur de la transparence du ciel, du Tachlit. Et il y a un midrash qui dit que la couleur de Jacob, c'est très laid. La couleur de Jacob, c'est très laid. C'est pas juste. Hein? Le midrash dit Yam, domé, très laid, domé la Yam, Yam, domé la Rakia, Rakia, domé le Kissé à Kabot. Ça veut dire la couleur bleue de la profondeur, du Tachlit, ressemble à la couleur de la mer, et la couleur de la mer ressemble à la couleur du ciel, et la couleur du ciel ressemble à la couleur du trône de la gloire. Lorsque Dieu se manifeste, dans les présents de la Merkaba d'Ézéchiel. Lorsque Dieu se manifeste dans la Merkaba, à travers le ciel, apparaît le Kissé à Kabot, Alors il y a trois niveaux de cette couleur de très. On a demandé au Midrash, pourquoi tu passes par la mer et ensuite par le ciel et pour arriver au Kissé HaKavod. Dis-nous tout de suite que le bleu ressemble au Kissé HaKavod. Effectivement, dans le Kissé HaKavod, il y a quatre figures, celle de l'homme, celle du lion, celle de l'aigle et celle du taureau. La figure de l'homme, c'est la figure de Jacob. Et pourquoi passer par ces niveaux? Alors il y a plusieurs explications, je cite celle du Midrash, telle que l'enseigne le Shla, dit Jacob a été atteint à Kafierer. Et il a été atteint à Kafierer, c'est-à-dire la pomme de la hanche. Et on dit qu'il a été atteint au nerf sciatique. En réalité, ce n'est pas du tout le nerf sciatique, c'est le nerf qui innerve les organes de l'engendrement. Ce nerf, le guide à l'âge. Il a été atteint dans sa descendance, dans sa lutte avec Ésaü. Et le Shla cite ce fait que ces trois niveaux du Midrash, Yam, il y a un miracle sur la mer pour la descendance de Jacob. Rakia, il y a un miracle dans le ciel au temps de Josué. Et Kissé HaKavod, c'est la figure de Jacob qui le quitte. C'est-à-dire les trois niveaux d'intervention de Dieu pour Israël en tant que descendant de Jacob. Mais si vous prenez ces trois mots, Yam, Rakia, Kissé HaKavod, vous avez le mot de Yerer qui apparaît. Yam, Yud, Rakia, Resh, Kissé HaKavod, Kaf. Et dans Yerer, vous voyez, dans Yerer, il y a un Kaf. C'est-à-dire que Jacob a été atteint dans le Kaf de Yerer. Le Kaf de Yerer, c'est Kissé HaKavod. Et donc, la figure de Jacob a été atteinte dans le Kissé HaKavod. Mais nous voyons quand, au moment de la destruction du temple, c'est le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, la figure de Jacob est tombée dans le Kissé HaKavod, et c'est la figure d'Ésaü qui va rentrer. Jusqu'à notre temps, où c'est l'inverse qui est en train de se faire. Et nous voyons donc que Tréret, c'est Jacob. D'après ce mouvement, vous avez Domela Yam, Yam Domela Rakia, Rakia Domela Issam. Et Jacob a été en exil chez Laban. Alors oui, le fil bleu dans le talet du blanc, c'est Jacob chez Laban. Par conséquent, quand est-ce que sera la fin de l'exil? Quand on pourra distinguer entre Jacob et Laban? Quand Jacob sortira de chez Laban? Alors, il y a une opinion qui s'oppose que la position d'Israël, c'est pas Jacob chez Laban. C'est un talet qui est tout anti-Jacob. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Laban et Jacob. C'est ça la position du Kohar, celle qui consiste à refuser la perspective messianique de l'histoire d'Israël. Ça veut dire que tout le talet est bleu. Il n'y a pas la relation Jacob-Laban, mais tout le talet est bleu. Bien, bon, enfin, ça c'était une échappée dans d'autres mondes pour répondre à... Bien, alors... Oui. Comment? Mais si votre question est, est-ce que Kohar sera pardonné un jour? Oui, c'est plutôt ça la vraie question. Et effectivement, lorsqu'il n'y aura plus de Machloket, alors on pardonnera Kohar. Vous verrez dans le premier verset de la paracha de cette semaine, lorsqu'on donne son nom, on donne toute la généalogie, mais pas juste à Jacob. Comment est le verset? Baïkar Kohar. Ben Ishar, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Anavav. Le Midrash dit pourquoi le verset n'a pas dit Ben Ishar, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Yaakov. Alors le Midrash dit parce que quand Moïse allait écrire sous la dictée de Dieu, Ben Yaakov, Jacob s'est levé et a dit je ne veux pas qu'on mette mon nom avec ce Ben parce que il a dit le Midrash, il a introduit Korcha. Korcha, pardon, Korcha c'est la déchirure. Et c'est la faute la plus grave qu'on ait de profiter de l'état de la réalité pour résoudre ses intérêts personnels. De profiter de l'état du problème des relations humaines pour résoudre ses intérêts personnels. Par exemple, de se servir de la dialectique des générations entre le père et le fils pour résoudre des problèmes de rivalité de personnes. C'est le problème de quoi?
Et il n'y a d'autre père que Dieu lui-même.
Bien, alors, donc en principe, nous voyons demain, pour l'étude du premier psaume, au centre de l'enfer, bien ça, avec les réunis. D'autre part, je vous rappelle que nous aurons une étude Shabbat après-midi au centre de l'enfer, à 6h, comme cette semaine, et que les deux journées d'études, dimanche et de lundi, qui sont consacrées à la Kedusha, se feront aussi au centre de l'enfer. Donc, vous avez tous les renseignements.